Le gang des hystériques.
Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité aussi.
La plupart d'entre vous le sont.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements
sur
clandestins.
Cette obligation du pouvoir.
Anti-patriarcat. Nous marchons aujourd'hui, c'est pour affirmer haut et fort que nous existons, que nous sommes fiers, que nous sommes magnifiques et que nous continuerons toujours à nous battre.
Bonjour à tous, à toutes et aux autres, vous êtes bien sur le gang des hystéries. Donc vous êtes avec Silver qui est aujourd'hui à la technique.
Wouh ! Bonjour.
Et Florian.
Bonjour.
Et moi-même Loïse, donc aujourd'hui sur une émission spéciale sur les questions LGBT, vu qu'on est en mai et qu'en mai, fais ce qu'il te plaît.
Donc oui, voilà. C'est exactement ça la raison.
C'est exactement ça, non mais voilà. Donc l'idée de cette... Donc on va commencer comme d'habitude par une chronique actu, on va écouter un peu de musique. Donc aujourd'hui on a fait un peu une playlist, notamment sur les deux dernières chansons spéciales LGBT+. Et puis, par la suite, on va donc avoir des discussions autour de livres qu'on a pu lire ou de thématiques, en tout cas, autour de l'histoire des luttes LGBT, voilà, en général. Le gang des hystéries, j'ai oublié de le dire, que vous pouviez l'écouter sur Micro Rebelle et aussi sur PFM 99.9. Et donc, on va peut-être commencer par notre petite chronique actu.
Ouais, on peut faire ça. Ouais, du coup, je vais... Pour les personnes qui sont dans le bassin minier, on a déjà parlé de cet événement-là, mais on va en reparler à nouveau aujourd'hui parce que ça va être vachement cool. Ça se passe au LAG à Liévin le 18 mai, donc le lendemain de la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Et en fait, on va projeter une web-série qui s'appelle Her Story. C'est sur le quotidien de femmes trans dans le Los Angeles d'aujourd'hui. C'est super beau, c'est touchant, c'est drôle, c'est très très bien fait. Et du coup, on vous projette l'intégrale, ça sera en sous-titré, tout et tout et tout. Il y aura à boire, à manger. Et ça sera à Liévin à 18h, à 18h ou 20h, je sais plus.
Je crois accueil à partir de 18h et puis projection voilà. Qui commence à partir de 20h certainement.
C'est ça.
19h ?
Sur la newsletter, c'est 19h.
Vous avez vu comment on est bien préparé.
Oh là là, c'est super.
Et donc du coup, ça sera au 23 avenue Jean Jaurès, au LAG de Liévin. Et donc, Loïse, à propos
on
du LAG.
On poursuit, ouais, encore le LAG avec qui on entretient des partenariats étroits ce mois-ci. Donc, le lieu autogéré Liévin, pardon, je dis des grosses conneries. Ce sera aussi le 24 mai au lieu autogéré Liévin, au 23 avenue Jean Jaurès, à 18h30 cette fois-ci, vu que le mois de mai, et notamment 2018, c'est 50 ans, c'est pour les 50 ans de mai 68. Donc, il y a plusieurs actions qui sont mises en place au LAG. Une qui est mise en place en lien avec le planning familial, donc c'est mai 68, féminisme et libération sexuelle, donc féminisme au pluriel, et libération sexuelle, point d'interrogation aussi, donc avec toute la question de qu'est-ce qui s'est mis en jeu en mai 68 autour de ces questions des droits des femmes, mais aussi des droits LGBT, comment les interactions avaient lieu entre militants, militantes, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là en fait. Et ça va être une soirée à partir de 18h30 de lecture de texte, un peu de... On va essayer de se rappeler historiquement aussi par rapport aux droits des femmes, par rapport aux droits des personnes homosexuelles ou transgenres, où on en était aussi à cette époque pour pouvoir discuter de ces questions-là collectivement. Et il y aura aussi une action au lieu autogéré de Liévin le 26 mai. Pareil sur mai 68, pour le coup, sur Mythe et Réalité, c'est le samedi matin, entre 9h30, 10h et midi et demi, sur ces questions-là. Et c'est autour d'un gros brainstorming avec Paul Masson, donc n'hésitez pas à y aller aussi. Et donc, je te passe la parole, Florian.
On va finir avec l'actualité, LGBT+. On va commencer pour le 1er juin par le bar LGBT. Donc, bar LGBT qui se tient au local du planning familial, donc tous les premiers vendredis du mois. Donc, je rappelle l'adresse, 45 rue François Gauthier à Lens. Et donc, le bar LGBT, c'est quoi? C'est juste un lieu de convivialité pour qu'on puisse parler de tout et de rien par rapport à ces questions-là, avec bien sûr des petits smoothies, des petits biscuits, la bonne ambiance qui règne. Donc, voilà, à partir de 17h, le vendredi 1er juin, le bar LGBT, donc au planning familial. On enchaîne ensuite avec les Prides, étant donné que ça arrive. Donc, pour commencer, il y a celle le samedi 2 juin, celle de Lille. Donc, donc le village des associations va commencer donc, à midi jusqu'à 18h, avec des stands associatifs. Il y a plusieurs expositions aussi qui sont présents, et la marche qui va commencer à 14h. Et c'est organisé par l'association Fierté Lille Pride. Donc ça, c'est pour Lille, c'est le 2 juin. Et puis après, on passe le 9 juin à celle d'Arras, cette fois-ci, donc qui commence pareil à midi avec le village associatif. Donc plein d'associations et tout ça. Donc cette fois-ci, c'est organisé par Arto Gagnon. Et le défilé qui va commencer pareil dans les alentours de 14h. Donc le samedi 9 juin à Arras pour la Marche des Fiertés.
Ouais. Oui, donc voilà, la Marche des Fiertés, une Pride, c'est ça. Enfin, si tu veux nous expliquer un peu ce que c'est...
Après, tout à l'heure, on avait prévu justement d'expliquer d'où venait l'origine des Prides, mais vas-y, on partira plus en détail tout à l'heure sur leurs origines, sur pourquoi...
Ah oui, oui, non, mais c'est juste un peu en quoi ça consiste aujourd'hui, bien sûr, quoi. Ouais.
Alors après, Marche des Fiertés, c'est le terme français pour dire les Gay Prides. On a plus tendance à utiliser le terme anglais, mais c'est vrai que Marche des Fiertés est aussi utilisé. Donc voilà. Oui.
Donc c'est des personnes qui luttent pour les causes LGBT et qui marchent ensemble fièrement dans la rue.
Ouais, voilà, c'est un événement festif, en général en tout cas, et avec plusieurs ambiances différentes. Voilà, on va justement retrouver cette ambiance très 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 festive, très très estivale. En général, c'est pour ça qu'on évite de faire les Prides en novembre, hein, parce qu'on a essayé, ça marchait
on
pas bien.
On a froid.
Et à côté de ça, c'est un acte qui est toujours résolument militant, et on vous expliquera ça tout à l'heure justement.
Ok, super. Eh ben... En parlant de Pride, moi j'étais partie sur un petit conseil lecture LGBT+. Et donc j'étais partie sur une BD qui s'appelle Propaganda. Et donc cette BD, c'est justement une BD qui, je prends mes petits papiers, donc si vous entendez des feuilles, c'est normal, qui est de Estrella Johanna, donc de Johanna Estrella, pardon, dans l'autre sens, qui est une illustratrice portugaise. C'est aux éditions Varum, c'est un bouquin de 120 pages qui a été fait en 2015. En fait, c'est donc elle arrive en Lituanie, donc la Lituanie, c'est un des pays près de la mer Baltique, entre la Russie et la Pologne, pour situer à peu près, enfin, il y a la Biélorussie, enfin bref, voilà. Si vous regardez, c'est les trois petits pays qui sont un peu triés sur le côté par ordre alphabétique. Et donc voilà. Et donc dans ce pays, la Lituanie est un pays qui est résolument, extrêmement homophobe, notamment vu que c'est lié à la religion. Pour y avoir un peu vécu, les gens se poussaient un peu à l'église pour avoir des places sur les sièges, pour vous donner un peu une idée à quel point c'est religieux.
Ah ouais.
Voilà, ça change un peu de l'idée de l'église en France, quoi.
Genre concert de Beyoncé, quoi.
Oui.
Il faut les meilleures places.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est assez extraordinaire. Hein. Vraiment, moi, ça m'avait. Voilà, on m'avait dit, faut assister à une messe. Ben, j'avais fait ça, j'avais fait, oh, ouais, quand même.
C'était bien.
Bah, j'y comprenais rien, c'était en lituanien. Mais... Alors, je ne sais pas exactement dans le contenu du discours, mais en tout cas, les gens avaient l'air trop contents. Hein. Ils étaient là, c'était un peu moumou, hein. C'est très cato-cato quand même. Hein. Donc voilà, c'est un pays qui est très vachement lié à la Pologne, donc ils ont un peu la même religion très catholique, ancrée dans leur racine. Donc,
petite parenthèse, c'est beaucoup dans l'Europe de l'Est où c'est plus festif, on va dire, que ce qu'on peut voir en France ou quoi que ce soit. On m'en avait déjà parlé aussi.
D'accord. Et donc voilà. Et en fait, en tout cas, dans ce pays, c'est hyper dur pour les personnes qui font partie de la communauté LGBT. Donc elle, Johanna, elle va suivre la Ligue gay lituanienne dans leur organisation de la première Baltic Pride, donc en 2015. Donc avant ça, il n'y avait rien eu sur les questions LGBT là-bas. La Lituanie, c'est l'un des pays au monde qui est plus dur pour les personnes homosexuelles. Il n'y a rien sur ces questions-là. Et donc, ils ont essayé de monter ça. Alors après, ils se sont fait tracher de tous les côtés. Du genre, il y a un journaliste qui a écrit sur leur consommation excessive de gobelets et de café. On leur a dit qu'il faudrait pas faire de publicité parce que ça donnerait une mauvaise image des personnes LGBT. Et à la fin, la mairie de Vilnius était contre le fait qu'ils fassent cette manifestation. Donc, ils ont dû intenter des actions en justice. Et en fait, ce que l'autrice montre et met en avant, c'est ce fond politique et en même temps, la vie de personnes LGBT dans un pays qui n'est pas du tout là pour les accueillir et un peu, leur quotidien, leurs histoires d'amour ou pas, ou le fait que, comment on vit en tout cas dans ces systèmes-là. Et c'est intéressant, c'est une chouette BD, c'est hyper mignon. Et je trouve que c'était agréable à lire et je trouve que c'est bien aussi de. Ça permet de voir avec un autre prisme que celui de on est en France, on a cette Pride, l'île, la race, on a tout, etc. Et de voir que dans d'autres pays qui sont vraiment pas loin, à des billets de Ryanair extrêmement pas chers, sans vouloir faire de publicité, c'est très vilain ce que je viens de faire.
Ok, Louise, on va en discuter après l'émission.
Et en tout cas, il y a ce truc de. C'est juste à côté et les droits, ils sont pas les mêmes, quoi. On va peut-être mettre une petite musique pour passer à autre chose. Donc, je vous propose une pause musicale avec Mayem et Chula. Et la musique, elle s'appelle Décor.
Les yeux à peine ouverts, il va falloir que je parvienne à décoller mes paupières après 13 heures de sommeil. De sale humeur, vu l'heure à laquelle je mets le pied au sol. Près deux ou trois réveils qui sonnent jusqu'à une petite douzaine. Avancer même quand c'est en sous-régime, gaver, prévoir d'être efficace, rentabiliser mon temps. Toujours bien rester à ma place, jamais laisser de moment de latence. Trop tard bondé, je place, tant bien que mal, un pied devant l'autre. Le crâne, les idées en vrac, j'accélère au radar, histoire de me donner l'impression de compenser mon heure de retard. Dérive, non calculée, esquive, mal maîtrisée, poteau d'acier massif dans le coude, je vais vite propager, loin d'arranger. Mon humeur déjà sévèrement ravagée, je suis à deux doigts du forfait, mais j'oublie pas de m'excuser. Avancer, même quand c'est en sous-régime, tracé, éviter de s'embourber, jamais trop se laisser le temps de penser. Généreuse en couleurs, nos Miss France, des Dom Tom et nos Naomi Campbell. Défilent dans les crânes des images de belles femmes méditerranéennes, mais espagnoles, italiennes, ça passe mieux quoi quand belle orientale, déhanchée enivrant, reine esclave des harems, ça peut pimenter les fantasmes, celles qu'on appelle filles des îles. Imaginez Vanilléa qui chante, sexualité supposée débordante, et il tripe sur la métisse, Mélissa d'Ibissa au point qu'il en fait un titre, et allez-y, Matéla, la liste est longue, 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 la liste est longue.
Ah, coucou, bonjour, on est de retour sur le gang des hystéries. Pardon, je me suis un peu endormie sur le micro, tout va bien. Donc, sur Micro Rebelle, sur Internet, ou bien sur PFM 99.9. Et donc, tous les troisièmes mercredis du mois à 20h. Donc, vous pouvez nous écouter sur PFM. Alors là, on repart et on repart avec Florian qui a lu pour nous un bouquin qui nous a tous et toutes intéressés. Et donc, si tu peux nous en parler. Donc, c'est Animaux Homo, si je veux.
Exactement. Donc, ça s'appelle Animaux Homo, histoire naturelle de l'homosexualité. Donc, c'est de Fleur d'Auger et c'est aux éditions Albin Michel. Et je vais commencer par une petite citation qui est reprise dans le livre. Donc, c'est... un scientifique, James Henrich, qui a écrit en 1982 « Si les animaux se comportent d'une façon que nous jugeons bonne, nous la qualifions de, entre guillemets, naturelle. S'ils font quelque chose qui nous déplaît, nous appelons ce comportement, entre guillemets, bestial. » Donc c'est un peu ce qui résume ce qu'il y a ici dans ce livre. Alors rapidement, pour dire qui est l'autrice, donc Fleur d'Auger, c'est donc une... c'est bien sûr une écrivaine, mais elle est aussi journaliste scientifique et à la base, elle est éthologue. Et en fait, elle a commencé à faire du journalisme et à écrire pour faire de la vulgarisation scientifique et notamment pour le jeune public, donc pour amener toutes ces questions scientifiques un peu plus au niveau de, bah, des jeunes pour qu'ils puissent comprendre tout simplement. Et donc, ce qui est bien et qu'on apprend directement sur la quatrième de couverture, c'est que ben, y a quasiment entre 1000 et 1500 espèces. Alors, c'est observé, ça n'a pas été forcément décrit, mais il y a entre 1000 et 1500 espèces animales ou des comportements dits homosexuels, c'est-à-dire entre individus du même sexe, qui ont été observés. Donc, tout ce qu'on a pu entendre de ces contre-natures, c'est pas contre-nature du tout. C'est au contraire très, très documenté dans ce bouquin qui est assez rapide à lire. Vous inquiétez pas, c'est écrit gros, il n'y a pas beaucoup de pages.
Et vous pouvez le retrouver au planning familial si vous souhaitez l'emprunter.
Exactement. Et elle a quand même fait du bon boulot parce que c'est un recueil qui regroupe 120 références d'articles scientifiques. Donc il faut quand même se taper les articles scientifiques, bien comprendre, vu que la plupart sont en anglais, ce qui a été dit, etc. Donc c'est pas évident. Et ce qui est bien, c'est qu'elle parle... alors au début, il y a beaucoup sur des idées. J'en viens dans une deuxième partie. Mais après, au milieu, il y a un beau passage sur tout ce qui est la biologie. C'est-à-dire dans quel cas on va retrouver des comportements dits homosexuels, c'est-à-dire entre individus du même sexe. Et je vous ai fait une petite liste de tous ceux qui pouvaient être regroupés. Donc moi, en tant que prof d'SVT et scientifique, j'étais un peu comme un gamin. voilà, avoir tout ça. Oh, c'est trop bien.
Ah, mais il était ravi. On lui a donné le bouquin et il s'est jeté dessus.
C'est ça. Exactement. Alors déjà, il faut préciser que ça peut être toutes les espèces animales. C'est-à-dire que dans le livre, on parle des oiseaux, on parle des insectes, on parle des reptiles, on parle des mammifères et on parle même des poissons. Alors des poissons en captivité parce que c'est plus difficile en milieu naturel, mais en tout cas on voit que ça touche toutes les espèces animales, alors sauf les invertébrés particuliers parce que certains comme les escargots sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils ont les deux sexes, donc on peut pas trop parler de hétérosexuel, homosexuel là-dedans. Après ça peut être une question de temps, c'est-à-dire que certaines espèces animales vont avoir une petite période de leur vie où ils vont avoir un comportement dit homosexuel et puis plus rien du tout après. Ça peut être le même moment chaque année. Il y a certaines espèces qui ont, on va dire, des envies copulatoires assez fréquentes et qui, hors de saison de reproduction, ben, surtout chez les mâles, vont copuler entre eux histoire de se vider, littéralement.
Ou de se faire du bien, peut-être.
Aussi.
Peut-être qu'ils se sentent seuls. Enfin.
Ils ont besoin d'affection.
C'est ça. Alors, je crois que c'était chez des béliers ou quoi, où en fait, les mâles et les femelles vivent toute l'année séparés les uns des autres. Et les mâles ont une activité sexuelle très intense. Il y a juste entre eux. Et juste au moment de la reproduction, en fait, il y a des regroupements entre mâles et femelles. Donc, c'est pour ça que ça peut être à certains moments. Et après, ça peut être toute une vie. Il y a certains couples carrément de deux individus du même sexe qui se forment, mais pour quasiment toute la vie. En parlant de couples, ça ne peut aussi être pas seulement des couples, c'est-à-dire qu'il y a des trios qui peuvent se former. C'est-à-dire
des troubles.
Des troubles, oui, exactement. Donc il y a des histoires de trios où il n'y a pas forcément copulation avec les, ou caresses ou tout ça avec les individus du même sexe, mais du fait d'être à plusieurs, ça permet à la progéniture de pouvoir se développer plus facilement et ça peut même aller jusqu'au quartet. Donc ça, voilà. Et par contre, voilà, suivant les espèces, il y a ou pas relation homosexuelle là-dedans. Ça peut être aussi une transition, par exemple. Alors c'est l'exemple, alors malheureusement qui est mal cité, mais qui donne dans la partie qu'elle appelle transsexuel et transgenre, les animaux transsexuels et transgenres, où en fait on connaît tous le petit Nemo.
Du genre le poisson avec les rayures, etc. Ouais,
exactement,
ça,
donc le poisson clown. Et ce qui est repris dans le film n'est pas vrai du tout, parce que
oui, c'est vrai.
Au début, c'est donc il y a le papa et la maman de Nemo, et la maman se fait bouffer par un brochet.
Ouais.
Et ce qui se passe chez les poissons clowns, c'est que normalement, l'individu le plus âgé est une femelle. Et c'est uniquement le mâle le plus gros qui a la chance de se reproduire avec la femelle. Quand la femelle meurt, c'est ce mâle qui est le plus gros qui devient la femelle à son tour. Et les autres mâles vont se battre pour pouvoir se reproduire. Donc en fait, ce qui Fleur d'Oger a mal écrit parce qu'elle a dit que c'est Nemo qui se transforme en Emma, mais c'est faux. C'est le papa, c'est Marin qui se transforme en Marine et qui devient la femelle.
Aucune culture cinématographique, hein, c'est honteux.
Mais en plus, j'ai eu de la chance de le revoir il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que je peux en parler. Et donc voilà, il y a certaines périodes de vie où en fait, c'est quasiment un changement dû à un comportement... De l'environnement et tout ça. Et chez certains poissons, ça peut être encore plus fréquent, c'est-à-dire qu'en fonction de la population, s'il y a trop de mâles ou trop de femelles, ben, certains individus vont changer et peuvent revenir au sexe qu'ils avaient précédemment. Donc c'est encore plus compliqué de tout ça. Et au final, ben, à quoi ça sert tout ça? J'en ai un peu parlé avant. Ça peut être sociétal. On retrouve ça surtout chez les dauphins et chez les grands singes, ces comportements, c'est-à-dire que ça renforce la cohésion du groupe. C'est pour les rapports, etc., pour dire, ben oui, je te considère comme dominant ou au contraire, je te considère comme un allié, donc pour plus tard. Pour le maintien de l'espèce, donc comme j'ai dit, quand on a un trio, par exemple, on peut plus facilement avoir des petits qui vont survivre et donc devenir adultes à leur tour. Et après, ça peut être augmenter le succès reproducteur, mais personnel, c'est-à-dire, on a un petit insecte qui s'appelle le hanneton. Cet hanneton, ce qu'il fait, c'est qu'il va se reproduire avec un mâle, va se reproduire avec une femelle. Et ils ont remarqué, d'après des études, que, en fait, le mâle qui vient de se reproduire avait des phéromones, des substances femelles qui attiraient d'autres mâles. Et donc, en fait, les autres mâles, au lieu d'aller vers la femelle où le mâle vient de laisser sa semence, bah, il va aller vers le mâle et il va se tromper. En gros, il va laisser sa semence sur le mâle. Mais chose encore plus intéressante, c'est que le hanneton, après l'éjaculation, reste accroché une heure à une journée entière à son partenaire et est traîné comme un boulet pendant toute cette durée. Donc en fait, ici, le mâle qui s'est reproduit avant avec la femelle a plus de chances d'avoir des petits de son sperme et pas du mâle qui aurait pu arriver derrière. Donc c'est très compliqué tout ça et c'est des techniques vraiment mises en place pour favoriser ces gènes plutôt que les gènes d'un autre.
D'accord, mais alors j'ai juste une question, alors je sais pas si j'ai juste pas très bien compris, mais est-ce que ça s'applique du genre chez des femelles qui pourraient être ensemble et des mâles qui pourraient être ensemble ou c'est majoritairement, en tout cas dans les exemples qu'elle donne, sur des mâles qui pourraient copuler ensemble?
Il y a aussi des femelles.
D'accord.
Chez, par exemple, les femelles singes, uniquement pour le plaisir, elles se stimulent. Et, pas seulement avec les mains ou les doigts, etc., mais quasiment sexe contre sexe. Donc voilà, c'est pas non, uniquement le panache des mâles, c'est aussi le panache des... Enfin, les femelles peuvent aussi
le faire. Super. Non, mais je veux dire, il fallait pas oublier...
Alors, ça, c'est pour la partie biologie, vraiment, ouais. Strictement... Alors après, oui... J'ai oublié de préciser, mais pas faire d'anthropomorphisme dans tout ce que j'ai dit. Hein. Donc, commencez pas à imaginer la même chose, c'est l'être humain. Hein. C'est,
Moi, perso, je me suis déjà retrouvé coincé à quelqu'un pendant plus d'une journée, oui.
Tu nous en diras tant. Après, ce qu'elle expliquait aussi beaucoup, ça, c'est plus au début du livre. Ça va être au niveau des idées. Alors, des idées qui peuvent être dites depuis tout le temps, mais aussi des idées scientifiques. Les scientifiques qui écrivent eux-mêmes les bouquins, c'est-à-dire que jusqu'au 20... siècle, il y a encore, alors la plus récente publication c'est quand même 1991 où les scientifiques considéraient les comportements sexuels comme des anomalies voire des pathologies, c'est-à-dire que c'est pas du tout considéré comme naturel et ça remonte jusqu'à loin. Par exemple, j'ai quelques exemples de termes, donc le plus récent c'est pseudo-copulation dans la nature chez un lézard unisexuel, c'est-à-dire qu'on considère ça même pas, voilà. Il y a perturbation du sens sexuel chez les babouins, donc on considère ça même pas comme quelque chose de naturel. Pour eux, c'était vraiment
après
anormal.
Les années 90, on voit sur la légalisation et la non-pathologisation de l'homosexualité, c'est totalement lié. Enfin, tu vois, 91, 92, c'est aussi ça, ce oui. moment-là.
Bah,
où...
C'est le 17 mai 90 que l'OMS a décrété que l'homosexualité n'était plus une pathologie, justement, ouais. chez l'humain.
Donc on voit bien que. Il y a des changements là-dedans. Et juste aussi par rapport à... au début, elle parle de l'histoire d'un tabou, c'est-à-dire que ça remonte carrément à l'Antiquité. Il y a des choses qui ont été dites à l'Antiquité. Par exemple, Aristote, qui était un scientifique, a parlé de plusieurs choses là-dedans, tout ça autour de l'homosexualité. Et le problème, c'est que ça s'est retrouvé chez les premiers chrétiens. Ces textes-là, ils s'en sont accaparés. Et on a par exemple l'épître de Barnabé qui est écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ, en gros qui reprend des choses qui ont été seulement vues, Les Grecs, dans l'Antiquité, avaient seulement vu ça, et eux, ils les ont interprétés. Et par exemple, ce qu'ils pouvaient dire, si je retrouve la phrase, c'est que, alors pour la petite info, les hyènes femelles ont ce qu'on appelle un pseudopénis, c'est-à-dire qu'elles ont tellement de testostérone que le clitoris est surdéveloppé, et donc on a l'impression que ce sont des mâles. Et à l'époque de cette observation, à l'Antiquité, les scientifiques de l'époque pensaient que, en fait, la hyène était une année mâle, une année femelle, et que ça tournait comme ça. Et de ce fait, on a Barnabé, donc au 1er siècle après Jésus-Christ, qui a commencé à dire de ne pas manger la viande de hyène parce que ça pourrait entraîner un changement de sexe chez l'homme. Et il y a plusieurs exemples comme ça où des comportements typiquement animaliers de certaines espèces vont être ramenés en disant il faut surtout pas manger de tel animal, sinon on va finir comme ça.
C'est assez extraordinaire de comment ils allient l'idée que ce que tu consommes va totalement se transformer en toi, quoi.
Donc il y a l'histoire avec la hyène, il y a l'histoire avec la belette, parce que la belette aurait des bébés tellement petits qu'en fait elle les porte dans sa bouche, et à l'époque on pensait qu'en fait elle procréait et elle mettait bas par la bouche, et donc ça c'était, il faisait un lien avec la fellation, donc pour les hyènes c'est un lien avec la bisexualité. Et il y a une histoire avec le lièvre où, alors je sais plus exactement, mais il y aurait une histoire avec des anus et qu'il ne faut pas manger de viande de lièvre parce que ça a entraîné des comportements qui entraînaient la sodomie en fait. Donc les raccourcis sont très très courts là-dedans.
Alors, des comportements qui entraîneraient la sodomie.
C'est-à-dire qu'en mangeant du lièvre, en fait, tu vas avoir envie de sodomiser des personnes, quoi, en gros.
Oui, après, si tout le monde est d'accord, tout va bien. Hein.
Mais en tout cas,
je suis végétarien, donc j'ai pas commencé à ça.
Mais en tout cas, à l'époque, c'est-à-dire peu au 1er siècle après Jésus-Christ, on a déjà ça qui se met en place. Donc c'est quand même des choses qui sont assez aberrantes, je trouve. Et on voit qu'on traîne ces boulets depuis tant et tant de siècles.
Mais je trouve que ça permet aussi de questionner cette idée que la science, elle n'est pas neutre, en fait. C'est-à-dire que souvent, on a cette idée, et notamment, moi, je le vois plus au planning avec la médecine, mais là, en tout cas, sur les SVT, de comment on voit les animaux, comment on va les analyser, finalement, on n'est pas neutre, on est tous ancrés dans une période qui est sexiste, homophobe, raciste, etc., et qui fait que, là, nous, on en rigole sur l'idée de t'auras envie de faire de la sodomie suite à manger telle viande, alors que à l'époque c'était extrêmement grave. Et en même temps, c'est comment les sciences, elles sont aussi ancrées dans un temps, dans une histoire, et que les scientifiques le sont aussi, c'est-à-dire que leur regard, il est sexiste, et on le voit, et je trouve que c'est aussi important de questionner ça, et même sur les animaux, en fait, c'est ça, parce qu'on se dit, sur les êtres humains, bien sûr, on va réfléchir, déconstruire, et je trouve que ça permet de voir qu'aucun savoir n'est neutre, quoi.
Et aussi, il ne faut pas oublier que l'être humain est un animal, déjà de base.
Ouais, mais qui
biologiquement. Parle au niveau biologie aussi. Ouais.
Et après, c'est là où justement c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est animal, qu'est-ce qui est sociétal. Parce que l'homosexualité, du coup, c'est marrant parce que là on parle d'homosexualité pour des rapports entre animaux de même sexe, à défaut d'un meilleur nom, parce que l'homosexualité, comme l'hétérosexualité, c'est des concepts qui sont humains en fait. Parce que c'est pas du tout un concept qui est valable en fait.
Et elle le dit dans le texte, c'est comme à la fin, le dernier chapitre sur les animaux transgenres et transsexuels, elle précise bien que c'est des termes à la base donnés par l'être humain, et ici elle donne sa définition à elle, comment elle entend transgenre chez les animaux et transsexuel chez les animaux. Donc transsexuel, c'est comme Nemo, les poissons clowns qui changent, alors que transgenre, elle considère, c'est les animaux, par exemple des femelles qui ont des comportements de mâles ou des mâles qui ont des comportements de femelles.
Ouais, elle diffère le sexe biologique, sociétal en fait.
Parce que c'est des animaux qui vivent en société pour la plupart, ces observations.
Et ce que je trouve que c'est chouette, c'est aussi qu'elle se dit, ça c'est mes définitions, elle les met pas dans une universalité. Je trouve que c'est quand même assez intéressant d'avoir une auteure qui permet, enfin une autrice, je sais pas, auteur, autrice, j'utilise les deux, qui en tout cas permet d'avoir une vision plus large de tout ça, et je trouve que c'est chouette.
Et juste une dernière chose en tant que scientifique, ce qui est bien aussi, c'est qu'elle remet en cause certaines questions d'articles. Parce que certains articles, à la fin des articles scientifiques, on se projette à dire bah, ça pourrait être ça, c'est sur beaucoup de suppositions et tout ça. Et ce qui est bien, c'est que des fois, elle remet en cause certains articles. C'est-à-dire qu'elle dit oui, bah, vous avez dit ça, mais est-ce qu'il aurait pas pu, est-ce qu'on n'aurait pas pu aller plus loin ou faire d'autres expériences pour voir est-ce que c'est vraiment ça qui a été fait ou pas. Et franchement, pour ça, que ce soit sociétal ou scientifique, le livre est vraiment bien fait.
D'accord, bah, tant mieux.
Bah, ça donne envie de le lire, en tout cas. Le livre donc de Fleur d'Auger, c'est ça?
Exactement. Animaux homo, histoire naturelle de l'homosexualité. Et c'est aux éditions Albin Michel.
Ah, c'est cool. Et moi, je trouve que ça me fait aussi rebondir un peu à... Parce qu'en animation avec les jeunes, on peut se retrouver vachement sur des trucs homophobes. Et donc, on se retrouve à discuter avec les jeunes, à essayer de déconstruire. Et il y a un peu ce truc de... Ben, l'hétérosexualité, c'est la nature, c'est naturel, c'est et d'essentialisation en fait de nos sexualités, comme si sexualité et reproduction c'était la même chose. Et je trouve que ce bouquin-là, en tout cas, parce qu'ils vont le dire aussi sur les animaux, sur tout ça, ben oui, s'ils veulent conserver l'espèce, et ça permet un peu de faire des parallèles, de pouvoir dire, bon ben voilà, on voit que partout, en fait, il n'y a rien de naturel à tout ça, et que sexualité, le fait de, enfin voilà, de s'accoupler, ça n'a rien à voir avec la reproduction et la survie de l'espèce, quoi.
Et puis surtout, s'il y a bien quelque chose de contre nature, hein, dans tout ça, c'est bien l'homophobie et la transphobie, parce que ça, c'est quelque chose qui n'a absolument aucun sens logique, si ce n'est préserver, justement, des questions sociétales, en fait, et qui n'ont aucun rapport avec la nature, aucun rapport avec la survie de l'espèce, au contraire, même vu le nombre de morts qu'on fait avec ça.
Oui, et puis qui sont juste des inventions, c'est-à-dire que le terme homosexualité est quand même un terme extrêmement récent qui date du 19e siècle, si je me souviens bien, qu'après on a ensuite, on a seulement créé le terme hétérosexualité parce qu'on s'est dit « Ah, on a un vide, on ne sait pas trop quoi faire », alors on va appeler ça comme ça en opposition à cette maladie, entre guillemets. Et en fait, au bout d'un moment, on a juste envie de dire, en fait, avant ça, il y avait d'autres possibilités, d'autres largesses, d'autres libertés, en tout cas dans nos sexualités, et je trouve que voilà, on a aussi mis des cases et des enfermements autour de choses qui pourraient être peut-être beaucoup plus simples, en fait.
Oui, on a associé des comportements à ça, en fait. Et c'est là où c'est intéressant, même, de voir même... ça, il y a pas mal de courants LGBT qui en parlent de nos orientations sexuelles comme quelque chose de politique. C'est quelque chose qui était beaucoup fait avec les lesbiennes et les féministes, et les lesbiennes féministes, disant est-ce que c'est un acte politique, du coup, d'en avoir aucune relation avec les hommes? Est-ce que c'est un acte politique pour un homme, du coup, de ne pas rentrer dans les carcans virilistes, par exemple? Et au final, ça posait plein de questions, et c'est là qu'on voit, au final, dans tout ça, on est, pour l'humain en tout cas, on n'est plus du tout dans du biologique, on est vraiment dans du sociétal, en fait.
Ouais, dans de la construction, en tout cas, de soi par rapport aux autres et avec, quoi. Ok. Ben, on va peut-être se passer une petite musique en référence à notre thématique actuelle. Donc, c'est Crête et pas Crête, homo. Juste petit trigger warning, niveau consentement, c'est pas forcément le top du top, cette chanson. Des bisous!
Like
Bonjour, vous êtes bien de retour sur le Gang des Hystéries, donc sur Micro Rebelle et puis sur PFM 99.9, le troisième samedi du mois à 11h30, le quatrième vendredi du mois à 20h et dans la nuit du vendredi au samedi à 1h du matin. Alors, on reprend et je sais que Sylvère nous avait fait un petit historique aux petits oignons sur un peu les luttes LGBT, etc. Et notamment celles liées aux marches des fiertés, si je dis pas de bêtises.
C'est exactement ça, Louise.
Super. Eh ben, vas-y.
Bah, tout à l'heure, justement, Florian parlait des marches des fiertés. Bon, là, c'est pas possible de faire un vrai historique en si peu de temps, mais on va vous donner quelques lignes pour mieux comprendre d'où ça vient. Parce qu'au final, les marches des fiertés, ou parfois appelé Gay Pride, mais c'est un peu réducteur parce qu'on parle pas que pour, on marche pas que pour les droits et les fiertés gays, mais aussi bisexuels, lesbiennes, trans, intersexes et tout ce qui ne rentre pas dans les cases. Mais on entend parler depuis très très longtemps, mais on s'est jamais posé pour se demander d'où ça vient.
Oui, surtout que moi, on me dit surtout « Ah, c'est des gens à moitié nus avec des trucs de toutes les couleurs dans la rue. » Alors, je pense qu'il faudrait aussi expliquer la lutte politique qu'il y a derrière tout
oui,
ça, quoi.
Tu as oublié qu'ils font la fête.
Oui, et voilà, qu'ils font la fête, oui, et qu'ils boivent de l'alcool.
Bah voilà, parce qu'évidemment, c'est dur de discerner entre ça et le carnaval de Dunkerque, quoi.
Effectivement.
Nous, on évite de faire des blackface. Hein.
Ce qui est déjà pas mal, c'est un peu moins raciste.
Oui, voilà. Donc, alors, pour ça, en fait, il faut revenir, pour connaître cette origine, il faut revenir en 69. On aime bien cette date. fin juin. C'était fin juin, c'était le 28 juin à New York. C'était au Greenwich Village, pour les gens qui connaissent, je ne sais pas.
Alors, c'est où aux États-Unis, Greenwich Village?
Bah, c'est à New York.
C'est à New York, pardon. D'accord. York. Ok, pardon, non, j'ai dit une bêtise, je n'avais pas entendu New York.
Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et c'était dans un... il faut remettre les choses dans leur contexte politique. En fait, il y avait une répression envers les personnes homosexuelles et pas que. J'étais assez dirigé surtout vers les personnes noires, latino, les travailleuses et travailleurs du sexe, les drag queens. Drag queen, petite parenthèse pour expliquer. Vous connaissez peut-être le terme français travesti ou... travesti. Et donc, c'est des hommes, et pas que, qui vont adopter les caractéristiques très très féminines qu'on oblige aux femmes en général, dont les talons hauts, les longs cheveux soyeux, le maquillage exubérant, les paillettes, tout ça, et les adopter et les accentuer, on va dire, fois 10 000, parce qu'on aime bien la démesure, et en faire quelque chose de puissant. C'est vraiment quelque chose d'empouvoirment, comme on dit en français.
donner de la force et de l'autonomie à travers ça, c'est ça quelque part.
Ouais, voilà.
Et pour la petite histoire, drag, ça remonte à l'époque où les hommes se transformaient en femmes pour monter sur scène. Les femmes n'avaient pas le droit de jouer sur scène. Et drag, en fait, ça veut dire dress as a girl, donc s'habiller comme une fille, tout simplement.
Exactement, oui. Et donc du coup c'est quelque chose qui c'est une forme d'art qui existe toujours parce que les drag queens du coup c'est du maquillage, c'est de la performance sur scène, c'est des messes politiques, ça va être du chant, ça va être plein de choses différentes. Et mais vu que c'est quelque chose de toujours qui a toujours été politiquement très transgressif, c'est quelque chose qui ne plaisait pas beaucoup à l'époque, qui ne plaît pas toujours maintenant, mais disons qu'à l'époque c'était pire. Et donc il y avait beaucoup de descentes de police dans des bars gays de New York où toutes ces personnes justement se retrouvaient, c'était les lits de la société qui se retrouvaient pour danser, écouter du Judy Garland, se retrouver, faire des amours, toujours plein de choses comme ça. Et il faut savoir en fait qu'il y avait beaucoup de descentes de police dans ces bars en fait, et ça se finissait avec des personnes qui étaient battues, qui étaient emprisonnées, qui étaient violées, qui étaient tuées parfois, et c'était une répression policière très très forte. Et
dans un objectif qu'ils arrêtent en fait
d'exister tout
d'accord.
Simplement, c'est en général eux aussi ils sont très dans la démesure un peu
ils sont radicaux hein, ils vont à la racine du problème.
Et Christine Boutin approuve ce message. Et donc il y avait un bar parmi eux qui était assez connu qui s'appelle le Stonewall Inn. Et à partir de là, il faut savoir qu'il y a plein de versions d'histoire. Nous, on va vous raconter l'histoire la plus croustillante, la plus sexy, parce que nous, on aime bien ça. Mais en vrai, ça a été tellement le chaos en fait, pendant 5 jours qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y avait pas des gens pour WhatsApper, Instagrammer, Facebooker à l'époque. Donc,
il n'y avait pas de téléphone portable, en fait.
Oui, voilà.
Je pense que c'est mieux de le repréciser. Donc, on est en 69 quand même. Hein, voilà. Les téléphones, ils ont des fils. La télé passe à peine à la couleur. Il faut se remettre dans aussi un contexte politique difficile.
Voilà, où les personnes étaient en plus ultra isolées, en fait. C'est con, parce que là, on fait une petite blague, c'est vrai, sur les téléphones portables et tout ça. Mais il faut savoir que Internet a beaucoup changé de choses pour la communauté LGBT. Avant, on était vraiment isolés, pensant être seul au monde, en pensant être cassé, entouré par des personnes hétérosexuelles qui nous disaient qu'on était malade. Et Internet a vraiment changé ça, d'ailleurs. On y reviendra tout à l'heure. Mais ouais, donc, à l'époque, à partir de là... Donc, l'histoire la plus populaire, la plus confirmée, c'est que quelques temps après la mort de Judy Garland, pour les personnes les plus jeunes ici ou les plus hétérosexuelles, Judy Garland était une icône à l'époque. Vous l'avez peut-être vue enfant dans Le Magicien d'Oz. Et elle était adorée par les gays. Et donc, pour donner une ambiance, imaginez si Madonna mourait... L'ambiance dans un bar gay, ça serait moyen. Et donc, voilà, des gens étaient déjà assez à cran. Et un soir, la police est venue faire une descente en plus au Stonewall Inn. Et cette fois-ci, c'était la fois de trop. Les gens en avaient marre et ils n'allaient pas interrompre le CD de Judy Garland. Donc, on va se calmer. Et alors que la police commençait à embarquer des gens, il y a une femme transgenre et drag queen, Sylvia Rivera, qui en a eu marre, qui a pris son talon aiguille et qui l'a balancé dans la gueule du flic. Et à partir de là, bah du coup, ils n'ont pas trop aimé les flics. Ils ont commencé à vouloir l'embarquer. Il y a une autre femme trans noire, Marsha P. Johnson. Vous pouvez trouver un documentaire sur elle sur Netflix si vous voulez. Promis, ce n'est pas sponsorisé. C'est juste que le documentaire.
Vous pouvez aussi le télécharger ou le streamer de manière totalement illégale si vous le souhaitez. Voilà,
donc on n'encourage rien. Vous êtes libre. Vous êtes grand.
Bisous. Vous êtes libre.
Et à partir de là, justement, il y a pour la première fois, vraiment, à cette ampleur-là, en tout cas, il y a eu un vent de résistance dans ce bar. Les gens ont commencé à résister. Et toute la population du bar s'est retrouvée contre les flics, qui se sont retrouvés complètement écrasés contre ces personnes. Ils ont très vite appelé des renforts. C'était une force spéciale, d'ailleurs, qui était très active à l'époque, parce que c'était en pleine manifestation contre la guerre du Vietnam. Et donc, du coup, ils étaient habitués justement à ces manifestants-là, mais pas du tout à ce que les prostituées, les trans, les travestis, les gays, les lesbiennes se remettent d'un coup. Ça, ils n'ont pas du tout vu venir. Et c'est à partir de là, il y a des émeutes qui ont commencé. Donc, on appelle ça les émeutes de Stonewall qui ont duré pendant 5 jours. Donc, vous imaginez, voilà, donc des voitures en feu, les gens dans la rue, les flics qui courent, c'était
des étoiles dans les yeux quand tu parles de tout ça.
C'était le début de tout en fait. À partir de là, il y a eu des associations justement qui sont regroupées de trans, PD, bi et gwyn qui pour militer ensemble parce que en fait avant ça le paysage associatif militants, c'était des assos qui, ouais, qui étaient des années 50-60, des personnes qu'on appellerait en français les homophiles, qui se revendiquaient comme ça, c'était donc des hommes homosexuels, très très généralement blancs, et qui militaient pour, en général, quand ils allaient dans la rue, c'était avec des pancartes, en costard-cravate, très polis, pour dire, regardez, on est normaux, on n'est pas comme ces dégénérés.
Ouais, et alors après, juste sur l'usage des termes, parce que là, on utilise trans, PD, bigouine, oui, et notamment sur PD et gouine, qui peuvent être souvent aux des personnes, oui, comme des insultes, et effectivement ça peut l'être. Il y a quelque chose qu'on appelle le retournement du stigmate. Alors ça semble un peu compliqué comme ça, mais l'idée c'est que quand on insulte quelqu'un de toujours la même chose, c'est-à-dire une femme qui a des relations sexuelles avec des femmes, si on lui dit gouine 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 gouine, voilà machin, au bout d'un moment cette insulte, l'idée c'est que pour qu'elle ne touche plus, qu'elle n'atteigne plus, et on s'en ressaisit et on l'inverse, et c'est-à-dire que donc d'où l'inversement du fait qu'on nous pointe du doigt, on l'inverse, on se la réapproprie comme comment on se nomme. C'est-à-dire que des femmes qui couchent avec des femmes peuvent se dire « je suis Gwyn » ou pareil pour des hommes qui couchent avec des hommes ou qui aiment des hommes, parce qu'il ne faut pas que je limite à la sexualité, c'est une attirance romantique et ou sexuelle, mais voilà. Et donc c'est se réapproprier les termes comme Gwyn ou PD pour en faire une force, pour en faire aussi une dénomination. Et comme ça, quand on nous insulte, on peut dire « oui, effectivement, oui, je suis Gwyn, et qu'est-ce que t'en as à foutre ?»
Tout comme queer, hein. Queer, à la base, c'était une insulte.
Oui, effectivement.
Complètement.
Donc voilà, c'est vrai que c'est bien de repenser à ces termes, parce que... Et alors, juste pour les personnes qui, même si elles sont très bien intentionnées, voudraient utiliser ces termes avec leur copain homosexuel, ou copine homosexuelle, en tapant sur l'épaule du genre « Ah, t'es pédé !» Non, enfin voilà, effectivement.
Non, s'il vous plaît.
Voilà, Sylvère, t'as raison, non. Voilà, le faites pas, nous, on le fait entre nous, parce qu'on est entre nous, et je pense qu'il faut aussi accepter ça, et voilà, on...
Et
on...
même entre nous, j'ai entendu des histoires où certains n'aimaient pas trop, mais
voilà,
après, c'est propre à chacun.
Voilà. La sensibilité des gens.
De chacun et chacune.
Voilà.
Et des autres.
Merci pour cette parenthèse. du coup, on va retourner. On était à Stonewall, donc du coup, pas de souci.
Émeute, 5 jours, voilà. Les flics courent partout et t'as des étoiles dans les yeux.
Voilà. Parfait. Et donc du coup, à partir de là, voilà, le paysage associatif change. Il y a du coup deux organisations qui se créent. Il y a 3 journaux qui se lancent. Les gens commencent à militer ensemble. Et ensuite, un an plus tard, donc le 28 juin 1970, on décide d'un coup de faire une marche pour commémorer les émeutes de Stonewall. On décide de faire quelque chose de festif parce qu'on va rappeler à la population hétérosexuelle et dominante, bourgeoise et blanche, parce qu'il ne faut vraiment pas oublier que c'était très important que la question raciale était vraiment présente dans ces mouvements-là. Même s'il y a certains films qui ont été faits qui essaient de nous faire croire que c'est des militants homosexuels blancs qui se présentent bien, qui ont fait ça, c'était majoritairement des militantes et militants noirs, latinos, travailleurs et travailleuses du sexe. Et donc, du coup, la question de race est très, très, très impliquée avec les droits LGBT, en fait.
Alors, ouais, le terme race étant utilisé de manière plutôt comme le terme sociologique, oui, et non pas sur l'idée d'une existence, oui, de races différentes, ouais, comme de cerveaux différents, oui, et tous ces trucs-là, ça, c'est pas du tout ça qu'on cautionne. Ce qu'on cautionne, c'est juste qu'il y a une différence de traitement, en
oui,
fait.
Oui, quand je parle de racisme, en fait. Les personnes qui subissaient le racisme, en fait. Et à partir de là, donc, c'était important pour elle et eux de faire une marche qui était festive, en fait. C'était pas quelque chose, une commémoration, c'était pas un truc où tout le monde allait pleurer, marcher en ce moment. C'était vraiment aller dans la rue et dire on est heureux et on est fiers, surtout. Et même si vous faites tout pour qu'on ne soit pas fiers, on va l'être pour rien que pour vous faire chier. Et à partir de là, donc là, depuis 1970, tous les étés, un peu partout dans le monde, il y a des marches des fiertés. Et en fait, c'est pour ça qu'on marche, c'est pour commémorer ces émeutes, pour commémorer notre existence, nos fiertés, nos amours, et passer un très bon moment dehors.
Ah oui, c'est cool.
Et maintenant, où on en est par contre ? Parce que là, maintenant, on leur parlait 70, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en France ? Qu'est-ce qui nous a marqué politiquement sur les droits LGBT ces dernières années ?
Ouais, ces dernières années, moi j'avoue qu'il y a eu il y a eu 2013, quoi, où voilà, ça a été quand même hyper violent en France, quoi. Enfin, c'est-à-dire que 82, Mitterrand dépénalise l'homosexualité, notamment parce qu'il avait parmi les personnes qui votaient pour lui beaucoup de personnes homosexuelles, que c'était un engagement qu'il avait pris auprès de la communauté LGBT+, et donc lesbienne, gay, bi, trans et autres, parce qu'il y a plein d'autres choses qui existent, et d'orientation et d'identité sexuelle. Et en fait, après 82, on voit que la deuxième chose qui est marquée, alors il y a le PACS, mais qui, je trouve, quand même... c'est bon, voilà, moi j'ai pas trouvé ça aussi marquant que le mariage pour tous et tout. Bah après, là ça, ça a
on était un peu plus jeunes, parce que je sais que j'ai des amis qui étaient un peu plus âgés déjà à l'époque du Pax. On a quand même eu les homosexuels au bûcher dans la rue, encore une fois bisous à Christine Boutin, on a eu ces manifestations là en 99 dans les rues justement.
Ouais, alors juste pour expliquer, parce que Silver fait beaucoup de références à Christine, voilà. Christine Boutin étant une militante anti LGBT+, très forte et qui est très violente et très présente dans les médias, en tout cas sur ces questions, et voilà, qui a fait beaucoup de mal à la communauté et qui a aussi été très présente dans les manifs dites pour tout, enfin pour tous et toutes, en tout cas contre le mariage des personnes homosexuelles. Et ça, c'était quelque chose où elle était un peu fer de lance de tout ça, quoi.
Mais il faut dire aussi que pour le mariage, ça a été folklorique, hein, parce que ça aurait pu passer crème, c'est-à-dire sans faire trop de vagues, mais ça a pris une proportion quand même énorme, et ça a duré quand même sur plus de 6 mois pour que la loi puisse être passée, et encore c'est passé, mais limite, quoi. Donc ça a été compliqué, c'était pas quelque chose de... d'aisé, hein.
C'était très utile pour le gouvernement, en fait, d'avoir justement l'occupation médiatique, enfin, sur ce sujet-là de société qui les impliquait pas tant que ça, et donc du coup de sacrifier les personnes LGBT dans ce combat-là, en fait. Et d'ailleurs, en ce moment-là, on a abandonné les questions trans et les questions des droits des femmes seules et lesbiennes aussi, ouais, et bisexuelles.
Sur les questions de la procréation médicalement assistée qu'on a PMA, donc ouais, qu'on a totalement abandonné, l'associant à la grossesse par autrui. C'est-à-dire que la différence, la PMA, c'est on va implanter des spermatozoïdes dans une personne sans forcément se préoccuper de l'identité du donneur de spermatozoïdes, etc. Et ça serait aussi... pour que ce soit possible pour les femmes seules ou les femmes en couple, la GPA, grossesse par autrui, ça serait qu'une personne puisse porter embryon, fœtus, et accoucher d'un enfant pour un autre couple. Et ça, c'est autre chose. Et la GPA n'avait jamais été abordée. Et en fait, ça a été, par les manifs pour tous, un moyen de mettre ça en avant, d'être sur des discours quand même qui étaient extrêmement excluants, c'est-à-dire un papa, une maman, du bleu, du rose. Alors, on pense aussi, par exemple, aux familles monoparentales qui n'ont peut-être rien à voir avec les questions LGBT, qui quand même, étaient passées sous silence, étaient pointées du doigt comme aussi potentiellement instables que, comme si avoir deux mamans et être en famille monoparentale, voilà, tout ça, toutes ces choses-là, fallait les refuser. Donc un peu, notre société va à vaut de l'eau, et je trouve que ça a été vraiment l'expression des personnes de droite, en fait, qui ont appris à manifester, qui se sont dit « Oh, c'est quand même cool la rue, au mois de mai, il fait beau, il fait chaud, c'est super !» Et donc, qui n'ont pas arrêté, et je trouve que ce mouvement ne s'arrête pas encore aujourd'hui, voilà. En fait. Ça a donné une réelle dynamique qui reste ancrée aujourd'hui dans notre société sur de multiples questions, quoi.
Et qui ont des conséquences vraiment graves, parce que là, on parle de ça, parce que forcément, nous, on est directement concernés par ces sujets, et ça nous a blessés, mais c'est même pas juste une question d'égo, de sensibilité, ça a vraiment produit des catastrophes. Les agressions homophobes, lesbophobes, transphobes, à partir de 2013, ça a été décuplé, en fait, il y en a eu énormément, les associations se sont retrouvées débordées, parce que ça a créé un climat d'homophobie où les personnes étaient à cran, et les gens se sont dit... Bah, qu'est-ce qu'ils vont demander, ces BD Zegwin, qu'est-ce qu'ils nous font chier, on va aller leur péter la gueule, en fait.
Ouais.
Et on s'est et ça a des conséquences encore maintenant, et puis psychologiquement, ça a causé pas mal de gens au suicide aussi, parce que il y a quelque chose de assez particulier au final à se lever le matin, d'allumer ta télévision et te rendre compte, en fait, qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui en bleu et rose qui sont en train de manifester contre toi, en fait, contre ton avenir, contre le fait que tu puisses exister. Et psychologiquement, c'est quelque chose d'assez compliqué, en fait, à gérer, surtout pour des personnes plus jeunes qui sortent à peine du placard.
Et après, dans l'entourage aussi, parce que personnellement, quand il y avait ces discussions à la télé, quand on regardait les infos, que ça parlait de ça, vu que mes parents étaient courants, ça parlait plus autour de la table, hein, un repas. Et puis quand un jour ton père te sort, mais de toute façon ils ont le pack, ça leur suffit, que toi t'es juste à côté, voilà quoi, t'es content.
Oui, et puis je trouve qu'il y a au-delà de ça une vague de personnes, alors intellectuels, parce qu'on ne peut pas les mettre dans d'autres cases, qui ont commencé à prendre des voix là-dessus. Moi, je pense à Eugénie Bastier, Marianne Durano, des personnes totalement contre les questions LGBT, contre l'IVG et tout. Et tout a été mis dans le même sac. Et en fait, ces personnes sont de plus en plus invitées sur les plateaux, sur tout ça, sur médiatisées. Et en fait, on perd de plus en plus cette idée de libération, enfin, en fait, qu'on donnait petit à petit à coup de gouvernement de gauche, du genre on va donner un sucre ou un cookie aux LGBT pour qu'ils soient un peu contents et qu'ils contents et qu'ils revotent pour nous. Et en fait, là, ça a juste donné libre voix à toutes ces personnes-là. Et moi, j'avoue que ça me fait flipper à l'heure actuelle. Enfin, voilà. Après, justement, parce que ça nous fait flipper et parce qu'on ne veut pas laisser tomber, on va vous quitter sur une merveilleuse chanson de Grâce et Volupté Van Van et de, Viscéralement Déviant qui s'appelle On Recrute.
Ouais, clairement, on recrute.
Chez les LGBT+, voilà. On recrute.
Et puis là, on termine ouais, d'une façon un peu sombre, mais en vrai, on va discuter de tout ce qui se fait parce que là, on a vécu une petite heure pour vous parler un peu des droits LGBT. On vous a juste fait un petit tour comme ça, mais on aura d'autres sujets. D'autres occasions de parler de ça, de parler de tout ce qui se fait actuellement et justement qu'est-ce qui se passe après qu'on est recruté.
C'est ça, et puis un peu aussi d'avoir une visée plus spécifique de plein de choses. Là, c'était introduction sur les questions LGBTQI+, et puis à une prochaine pour poursuivre tout ça. Des bisous, à vite.
Allez, à bientôt.
Des bisous, à bientôt.
On recrute. C'est promo sur l'adhésion. On recrute.
Fini la contraception.
On recrute.
Offre-toi une nouvelle oppression.
On recrute.
Hétéropose ta démission.
Ici tu trouveras des perles, des diamants, des paillettes dans tes lunettes, ce sera tout le temps. Nos beautés singulières, c'est comme un bol d'air face au schéma ordinaire. Ni modèle, ni fiche technique, ensemble on affine nos pratiques.
Pas besoin d'aller sur Facebook ou Twitter, des amis tu t'en feras trois par heure. Tout le monde est gentil et de bonne humeur, pas de café, de beurre ou de liqueur, on nage tous dans un parfait bonheur.
Rejoins un crew, relève la tête, reste pas tout seul, viens à la fête. Rien n'a changé dans ton body, tu sais pas pourquoi, tu te sens sexy. Puis que t'es là, tu danses pas mieux, mais quand tu bouges, c'est merveilleux. Homophobie désintégrée, arbore ton plastron DPG.
On recrute.
C'est promo sur l'adhésion.
On recrute.
Fini la contraception.
On recrute.
Offre-toi une nouvelle oppression.
On recrute.
Hétéropose ta démission.
Tu seras la rebelle de la famille, tu déclencheras la polémique. Sujet de débat hostile, envisage une fuite rapide. Après avoir pleuré dans le noir, ouvrant les portes de ton placard.
Libre de nos imaginaires, on invente nos façons de faire. Des activités à toute heure, soirée, réu, dîner, atelier. Déménagement, rassemblement, et ça, toujours dans la bonne humeur. Sorcière, Win à tout faire, transporteur, diver. Chez nous c'est sûr, tu trouveras ton bonheur.
Je suis pas relou pour un sou, je t'appellerai pas mademoiselle, miss ou ma gazelle. La drague chez moi c'est fictionnel, l'histoire est toute tracée dans ma cervelle. Dans la vraie vie j'ai pas encore osé te parler. Je fais passer le message à une amie queen, qui le dira à un pote trans qui a une pote queen, qui te dira qu'il paraît que tu me plais.
Ici pas de drague relou, quelques regards au niveau des genoux et des bredouillages à l'oreille de mots doux. Non, non, pas de drague relou, juste le sens de l'humour et les yeux doux. Tu seras bien accueilli chez nous sur la table, serre-toi, y'a du tofu. Y'a pas qu'au jardin que tu trouveras des petits choux. Des chouchous chez nous, y'en a partout.
Viens chez nous, tu vivras la consanguinité et la non-exclusivité. Et tout ceci sans conflit, sans jalousie et dans l'harmonie, parce qu'on sait se gérer.
Dis adieu à ta cystite, t'auras plus le pipi qui pique. Quel avantage non négligeable qui rend la vie plus agréable. Plus de confusion en ton urètre, ton clitoris. T'inquiète, on sait par où tu pisses.
Viens chez nous, tu verras que le sexe est pour le plaisir et pas pour procréer. Pas besoin de s'occuper de l'avenir, on a déjà le présent à inventer. On est le fléau des nations, on ne contribue pas aux nouvelles générations. Mais on continuera à s'aimer des rêves pailletés de folles dégénérées.
C'est promo sur l'adhésion.
On recrute.
Fini la contraception.
On recrute.
Offre-toi une nouvelle oppression.
On recrute.
Hétéropose ta démission.
Les années passent, on reste en place. Toujours décalé, chaque fois qu'ils veulent nous donner un âge, c'est sûr, ils vont se planter. Ils peuvent pas capter que pour nous, la jeunesse, c'est pour l'éternité. Tu vois bien, échapper à la normalité, c'est bon pour la santé. Faut pas hésiter, tu vas kiffer comment, bébé.
Pour des années, t'auras des réduits 15-25 ans. Dans le train, t'auras même le droit à un accompagnant. T'auras l'air d'un mineur en fuite. Dans Stop, on te prendra rapidement. Nourri par toute cette foudre, tu vivras plus longtemps.
On a la jeunesse éternelle, la déviance nous donne des ailes. Et même après 30 ans, on s'habille au rayon enfant.
Si t'as des problèmes d'argent, prends plus la tête en comptant les 3 sous manquants sur ton épargne logement.
toute ta vie ne sera qu'économie. Oublie la monotonie d'un travail en CDI. Lâche donc ta maison à crédit. On trouvera un squat, tu verras, c'est gratuit.
Tu veux quoi ?
Piscine, jardin et angle saillant. Pas besoin d'ergonomie pour la sécurité des enfants.
Parce que t'en auras pas des enfants.
Si t'en as déjà, t'inquiète, ils sont mûrs avant 2 ans. Les TPG rendent les enfants plus intelligents.
On recrute !
C'est promo sur l'adhésion.
On recrute !
Fini la contraception.
On recrute !
Offre-toi une nouvelle oppression.
On recrute !
Hétéropose ta démission.
Notre humour nous entretient, viens chez nous, on se marre bien. On fait les meilleures soirées, les hétéros se déguisent pour y aller. Mais on est loin d'être bêtes, on sait différencier un pro-féministe d'une tapette. On a un radar intégré, pas besoin de grinder ou de GPS. Ça marche même en état d'ivresse. On peut dire sans se tromper qui est trans, oui ou pédé. On est post-vie privée parce que le privé est politique. Alors tout devient public, plus de culture du secret. Même si tu essayes d'être discrète, on n'a pas public ou closer. Mais les ragots sont toujours à l'heure, avec une large diffusion et des antennes interrégion pour une efficacité éprouvée, des infos vérifiées bien sûr de qualité.
Rien à voir avec du contrôle social, juste un échange d'infos cruciales. Y'a que comme ça qu'on stoppe la gale, c'est une question de santé globale.
On est tous des pros en débat, les hétéros stagnent, nous on est déjà au-delà. Si si, regarde là-bas, on est post-post, on est méta. Même les universitaires piquent nos idées, on a la technique pour niquer les puces RFID. On peut t'expliquer n'importe quel mot compliqué sans se la péter ou polémiquer, je crois bien qu'on est parfait.
On fait flipper les gâteaux, on fait pleurer les hétéros. On a la tchatch, on a du style, on n'est pas là pour être futile.
Chez nous, ni barbelé, ni barrière de sécurité. Mais tu vois, le sens de l'engagement, c'est important. C'est toujours mieux si tu peux rester tranquille, t'installer.
Bienvenue dans la communauté.
C'est promo sur l'adhésion.
On recrute.
Fini la contraception.
On recrute.
Offre-toi une nouvelle oppression.
On recrute.
Hétéropose ta démission.